ou à Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Morgan Guiriek et Eric Manirakiza en votre compagnie. Nous sommes jeudi le 3 novembre 2016. Bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire.
Les élections législatives en Côte d'Ivoire auront lieu le 18 décembre. L'opposition qui a boycotté le référendum promet de participer.
En Afrique du Sud, les appels à la démission du président Jacob Zuma se multiplient. L'opposition veut déposer une motion de censure le 10 novembre.
Et nouveau drame de l'immigration en Méditerranée. Au moins 239 personnes sont mortes ou portées disparues après un naufrage au large de la Libye.
Les soldats irakiens sont dans Mossoul pour une bataille qui s'annonce longue et douloureuse. Le chef du groupe État islamique appelle à la résistance jusqu'à la mort.
Et bien sûr, notre rendez-vous quotidien sur la course à la Maison-Blanche. Dernière ligne droite avant le jour J, mardi.
L'économie et les sports, juste après le journal.
Les prochaines élections législatives en Côte d'Ivoire auront lieu le 18 décembre. Bruno Conné, porte-parole du gouvernement ivoirien, l'a annoncé ce jeudi. Les précisions de John Lindon.
Cette date a été proposée par la Commission électorale indépendante. Le 18 décembre, les bureaux de vote ouvriront à 8h pour se fermer à 18h, heure locale. Bruno Conné a également précisé que les dates de la campagne et d'autres éléments seront donnés ultérieurement. Ces législatives seront à tour unique, le candidat arrivant en tête étant élu député. La coalition au pouvoir dispose actuellement d'une majorité écrasante, soit 90% des 250 députés. Le Front populaire ivoirien, ancien parti au pouvoir, avait boycotté les législatives de 2011. Cette fois-ci, l'opposition qui a boycotté le référendum dimanche dernier a décidé de participer aux législatives. Pascal Affine-Guessant, président du principal parti d'opposition, le FPI, a réitéré que la bataille à venir, c'est de mobiliser pour conquérir l'Assemblée nationale.
John Lindon, Nigeria, le chef de la police ordonne une enquête sur des accusations de viol et d'exploitation sexuelle par des policiers sur des femmes réfugiées dans l'état du Borno. Les autorités réagissent au rapport de Human Rights Watch qui dit avoir recensé 43 femmes et filles dans 7 camps de Maïdougouri, abusés sexuellement par des responsables de camps, des policiers et des soldats. Le chef de la police fédérale, Ibrahim Idriss, s'est dit très inquiet et a désigné une équipe spécifique pour mener une enquête discrète et impartiale.
Au Gabon, plusieurs personnes ont été interpellées ce matin au siège du journal d'opposition Écho du Nord dans la capitale, Libreville. Des hommes armés en civil sont entrés dans la salle de rédaction alors que les journalistes bouclaient l'édition à paraître demain. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP un de leurs collègues.
Jacob Zuma, sous une pression croissante suite à la publication d'un rapport sur la corruption mettant en lumière l'étroite collusion du président sud-africain avec une richissime famille d'hommes d'affaires indiens. Cet énième scandale alimente les appels à sa démission, n'est-ce pas, Salwa Jafari?
Zuma doit partir. C'est aux yeux de beaucoup la pire semaine que le président sud-africain ait vécue depuis sa prise de fonction. Le document publié mercredi met en évidence l'interférence des Gupta à la tête d'un puissant empire industriel et médiatique dans les affaires d'État, jusque dans la nomination des ministres, le tout avec la complicité du président qui ne cache pas son amitié avec la famille d'origine indienne. Devant ce dernier scandale, l'opposition a réitéré ses appels à la démission du président Zuma, dont le mandat expire en 2019 et annonce le dépôt d'une motion de défiance pour le 10 novembre. Cette motion a cependant peu de chances de passer, le Parlement étant dominé par l'ANC au pouvoir. Mais ce soutien s'effrite depuis le revers historique du parti de la lutte anti-apartheid au municipal d'août dernier.
En Suisse, la justice a annoncé le séquestre de 11 véhicules de luxe appartenant à Théodorin Obiang, fils du président en Guinée équatoriale. Il est soupçonné de blanchiment d'argent.
Manifestation anticorruption dans le centre de Nairobi au Kenya. Quelques 300 protestataires s'étaient rassemblés suite à des publications sur de potentielles dépenses frauduleuses au sein du ministère kenyan de la Santé. Les manifestants ont été dispersés par la police à l'aide de gaz lacrymogène et de canons FAO.
Et Kenya, toujours, le président Uhuru Kenyatta accuse l'ONU de faire un bouc émissaire du commandant kényan de la mission onusienne au Soudan du Sud, limogé pour l'inaction des casques bleus lors des violences de juillet à Djouba. Nous ne contribuerons plus à une mission qui a échoué à remplir son mandat et qui en vient maintenant à faire des Kenyans des boucs émissaires, a déclaré le président Kenyatta.
Et dans l'est du Cameroun, un responsable communal est décédé alors qu'un évangéliste congolais tentait de le délivrer de la maladie dont il souffrait dans une église dite de réveil. C'est ce que rapporte la radio d'État qui ajoute qu'il s'agit du troisième décès en 2 ans.
Au moins 239 personnes sont mortes ou portées disparues après de nouveaux naufrages de migrants mercredi au large de la Libye. Claire Morin-Gibourg.
Ailleurs dans le monde, on a des problèmes techniques. Le chef du groupe État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, est sorti d'un an de silence pour exhorter ses troupes à défendre Mossoul face à l'offensive des forces irakiennes. Des détails avec Anastasie Toudiech.
Un groupe de migrants, dont une vingtaine de femmes et 6 enfants, est parti hier de Libye, mais leur bateau a pris l'eau au bout de quelques heures de navigation. Selon Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'OIM, l'Organisation internationale des Nations unies pour les migrations. La plupart de ces migrants se sont noyés avant l'arrivée des secours. Seulement 27 personnes ont survécu. Un second naufrage a eu lieu toujours au large de la Libye. 2 survivantes ont témoigné que leur bateau transportait environ 130 personnes. 4 220 personnes sont mortes en Méditerranée en 2016. Près de 28 000 migrants sont arrivés en Italie pour le mois d'octobre, ce qui monte à 158 000 personnes qui ont atteint les rives de l'Europe cette année.
Voilà, c'était Claire Morin-Gibourg qui nous parlait des problèmes des nouveaux naufrages de migrants. Et nous enchaînons avec cette actualité en Irak, les soldats irakiens qui sont entrés maintenant dans Mossoul et le chef du groupe État islamique qui appelle à ses troupes à la résistance jusqu'à la mort.
Tenir ses positions dans l'honneur est 1000 fois plus aisé que de se replier dans la honte, assène à la radio une voix attribuée à Abu Bakr al-Baghdadi. Le message n'est pas daté, mais fait référence à des événements survenus ces dernières semaines. L'appel est lancé à tous les habitants de Ninive, la région où se trouve Mossoul, la plus grande ville jamais conquise par le groupe État islamique, où Baghdadi avait proclamé en juin 2014 l'instauration d'un califat. Baghdadi, 45 ans, reste introuvable malgré les 10 millions de dollars offerts par les États-Unis pour sa capture. Sur le terrain, les troupes irakiennes sont dans Mossoul. Elles se déplacent prudemment en essayant d'éviter les tirs de snipers, les embuscades et les attentats suicides. Selon les autorités irakiennes, près d'1 million de personnes sont prises au piège des combats. Les militaires anticipent une bataille longue et douloureuse qui durera au mieux 1 mois, au pire 2, selon le général Peshmerga Nourouddin Tatarkhan.
En Afghanistan, au moins 30 civils ont péri dans une frappe aérienne de l'OTAN dans la province de Kunduz. Des manifestations empreintes d'émotion ont éclaté après ce raid. Et des dizaines de proches des victimes se sont rassemblés devant les bureaux du gouverneur, transportant des corps d'enfants tués. Toujours à Kunduz, une attaque talibane a coûté la vie à 2 soldats américains aujourd'hui.
En Syrie, au moins 12 civils ont été tués aujourd'hui et 200 autres blessés par les tirs et les salves de roquettes. Les rebelles ont relancé aujourd'hui avec force leur offensive à Alep pour briser le siège imposé par le régime syrien au quartier qu'ils contrôlent à la veille d'une nouvelle trêve humanitaire de 10 heures décrétée par Moscou.
Un Palestinien a tenté de poignarder un soldat israélien aujourd'hui en Cisjordanie occupée. Il a été abattu par les forces israéliennes sur place. L'armée n'a pas fourni plus de précisions sur les faits.
Le Royaume-Uni a commencé à discuter avec certains de ses partenaires du Conseil de sécurité d'un projet de résolution exigeant une nouvelle trêve des combats au Yémen. Le projet britannique invite toutes les parties au conflit à prendre immédiatement avec le médiateur de l'ONU des consultations en vue d'un règlement politique sans condition préalable.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé aujourd'hui l'Allemagne d'héberger des terroristes. Il a affirmé que Berlin refusait d'extrader des putschistes présumés que réclame Ankara depuis le coup manqué de juillet.
Toujours en Turquie, les premiers procès liés à la tentative de coup d'État de juillet s'ouvriront d'ici début 2017. Le procureur général d'Ankara n'a pas donné une date précise. Ces procès les plus massifs de l'histoire de la Turquie moderne représentent un casse-tête logistique pour les autorités. Elles ont annoncé la construction de tribunaux supplémentaires et des milliers de personnes ont été placées en détention provisoire.
Un opposant russe qui a affirmé être torturé et battu en prison semble maintenant atteint d'épilepsie, c'est ce qu'a déclaré sa femme aujourd'hui. Elle craint que cela ait été provoqué par de violents coups sur la tête, précisant que son mari n'avait jamais souffert d'épilepsie dans le passé.
Au Royaume-Uni, la haute cour de justice a porté un coup aujourd'hui au gouvernement de Theresa May. La Cour a décidé que le Parlement britannique devrait voter sur le processus de sortie de l'Union européenne, ce qui pourrait ralentir le Brexit et peser sur la stratégie des négociations. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
Les 1 250 000 actions du groupe Coris Bank International du Burkinabé Idrissa Nassa ont suscité une très forte adhésion des acheteurs. Une offre publique de vente en sigle OPV, ouverte le 2 septembre dernier, a été close en 6 heures. Réalisée dans le cadre d'une augmentation de capital de la première banque du Burkina, elle porte sur 36,75 milliards de francs CFA d'actions. Cette OPV a suscité un carnet d'ordre de 108 milliards de francs CFA pour un taux de souscription de 291,8%. L'Égypte a décidé de laisser flotter sa devise pour répondre à une crise monétaire aiguë qui affecte son économie et menace de relancer l'instabilité politique plus de 5 ans après la révolution de 2011. Cette décision devrait provoquer une forte baisse de près de 50% de la livre égyptienne face au dollar. Le Fonds monétaire international s'est déjà alarmé de la crise monétaire que traverse la deuxième économie du monde arabe après l'Arabie saoudite. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé hier un prêt de 900 millions d'euros à l'Algérie. C'est le premier à être sollicité par Alger auprès de l'institution financière panafricaine depuis 2006. Le pays essaie de mettre sur les rails une transformation structurelle de son économie. Selon Jeune Afrique, les revenus pétroliers algériens ont été divisés par 2 depuis le début de la chute des cours. À 62 milliards de dollars en 2014, ils ne devraient pas dépasser 25 milliards à la fin de 2016.
Et nous enchaînons directement avec les sports. Nous accueillons au studio Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Eric.
En Afrique d'abord, on commence avec la suite du Tour du Faso en cyclisme.
Haruna El Boudo reste en jaune à l'issue de la 7e étape, courue entre Bobo Dioulasso et Banfora, 84 km. La 7e étape est enlevée par l'Érythréen Abraham Meron au sprint.
Football maintenant. Aujourd'hui, place à la 4e journée de l'Europa League.
Schalke 04, le Zénith Saint-Pétersbourg, l'Ajax d'Amsterdam et le Shakhtar Donetsk sont en mesure de se qualifier pour ces 16e de finale. On va suivre également Manchester United qui se déplace à Istanbul sur la pelouse de Fenerbahçe. À suivre notamment José Mourinho et Zlatan Ibrahimovic, toujours sous le feu des critiques. Enfin, dans le groupe K, Southampton de Claude Puel accueille l'Inter de Milan en crise après le départ de son coach Franck De Boer.
Fin de la 4e journée de la Ligue des Champions, Nico.
Dans le groupe E, Monaco a disposé du CSKA Moscou 3-0. Tottenham a été battu par le Bayer Leverkusen 1-0. Dans le groupe F, 3 buts partout entre le Legia Varsovie et le Real Madrid. Match nul entre Leicester et Copenhague 0-0. Et puis les Portugais de Porto s'imposent sur la plus petite marge face à Bruges 1-0. La Juventus de Turin partage les points avec Lyon 1 but partout. Enfin le FC Séville qui dynamite le Dynamo Zagreb 4-0.
Et on termine avec la NBA, le championnat de basketball nord-américain, Pino.
Oui, les Lakers de Los Angeles ont infligé à Atlanta sa première défaite de la saison, 116 à 123. Autre résultat, Boston qui domine Chicago 107 à 100. Brooklyn qui bat Détroit 109 à 100. La défaite des Knicks de New York contre Houston, 99 à 118. Washington battu 103 à 113 par Toronto. Enfin, Charlotte qui domine Philadelphie 109 à 93.
Et c'est tout pour les sports. Merci Nicolas. Morgan Guerrier, Eric Manirakiza avec vous. Place au dossier du jour et première escale à Addis Abeba.
En Éthiopie, donc, le Premier ministre Hailemariam Desalegn a procédé à un remaniement de son gouvernement. Mesure prise dans un contexte particulièrement tendu, entre contestations inédites par son ampleur de l'ethnie Oromo et l'état d'urgence décrété le 9 octobre. Les implications de ce remaniement avec la journaliste Tigé Chifera au micro d'Anastasie Tudiech.
Ce remaniement donc intervient un an après la mise en place d'un gouvernement précédent suite aux résultats des élections l'an passé. La différence, c'est que ce gouvernement est beaucoup plus varié au niveau ethnique. Il compte notamment 9 nouveaux ministres d'origine d'ethnie Oromo, ainsi que des ministres d'autres ethnies. Au total, ce sont 30 ministres, seulement 15 sont réellement nouveaux. Les 15 autres ont été déplacés vers de nouvelles fonctions au sein du gouvernement.
Pensez-vous que ce remaniement suffira à apaiser les tensions ?
La coalition au pouvoir depuis 25 ans n'a jamais été confrontée à une telle colère. La population croit, le mécontentement de la population est vraiment évident, c'est quelque chose qui est indéniable. Et donc, ce gouvernement s'est retrouvé confronté soit à une réaction forte, ce qu'il a essayé de faire et qui en fait n'a pas porté ses fruits. Il y a aussi un certain mécontentement au niveau de l'armée, donc il me paraît judicieux pour le gouvernement en tout cas de ne pas prendre de mesures radicales qui pourraient ensuite lui revenir en pleine figure, si je peux me permettre. Et puis, à côté de ça, donc ils essaient de trouver une solution à l'amiable. Pour le court terme, pour le long terme, c'est difficile à savoir. Ce gouvernement est un gouvernement de technocrates. Il semblerait que le gouvernement ait l'intention d'avoir des ministres capables de faire leur travail, qui n'ont pas été promus parce qu'ils sont membres du parti. C'est à voir. Si ce gouvernement parvient à répondre aux demandes du public, notamment dans les différentes provinces du pays, peut-être qu'à ce moment-là, cela pourra porter ses fruits. Mais c'est difficile, en tout cas pour le moment, de dire que ce sera suffisant.
Vous avez parlé de colère tout à l'heure, et cette colère s'est notamment exprimée et défoulée sur les biens étrangers. Est-ce qu'il y a des chances pour que les choses s'apaisent de ce côté-là aussi ?
Pour l'instant, c'est très difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que la raison pour laquelle la population a exprimé cette colère envers les biens étrangers, c'est parce que des terres ont été louées à ces investisseurs étrangers, terres qui appartenaient ou en tout cas qui étaient cultivées par les paysans locaux et qui, à ce que je sache, n'ont pas forcément été compensées pour ces pertes.
Voilà, c'était la journaliste Tigé Chifera au micro d'Anastasie Tudiech.
Découverte au Bénin de 18 kg de drogue dans un des containers au port autonome de Cotonou. Le butin appartient à Sébastien Ajavone, surnommé le roi de la volaille. Il est en garde à vue à la brigade territoriale de Cotonou depuis plus de 5 jours. 3 de ses agents travaillant dans la société de distribution des produits agroalimentaires Kajaf Common y séjourne également à Cotonou et environ. L'affaire fait beaucoup de bruit et pourrait mettre en péril la cohésion sociale. Plus de détails sur cette affaire avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Ce fut une onde de choc depuis le vendredi 28 octobre dernier où Sébastien Ajavone est placé en garde à vue. Très tôt, la Russie est mêlée, pointant du doigt le gouvernement actuel comme étant le commanditaire d'une telle chose. Même si à tous les niveaux, la clairvoyance semble avoir déserté le forum, certains restent la tête hors de l'eau pour réfléchir de façon sereine. C'est le cas de Rachidi Guadamassi, député ami et allié de Sébastien Ajavone qui invite le chef de l'État et l'opérateur économique à ne pas se laisser prendre au piège qui leur est tendu.
Il y a absolument une main invisible qui tire la ficelle. Cette main invisible agit pour opposer et faire rivaliser deux puissances économiques. J'ai la ferme conviction que le président Patrice Talon ne peut jamais détruire Sébastien Javon. Ça, c'est clair. De même, j'ai la ferme conviction que M. Sébastien Javon ne peut jamais être impliqué dans une affaire de drogue.
Alors que tout le monde s'attendait à une audition de l'homme par le procureur, c'est à la présentation des faits que les Béninois ont assisté. Après avoir donné les raisons pour lesquelles les trois agents et leurs supérieurs hiérarchiques sont gardés, le procureur a tenu à apaiser les populations en ces termes.
En raison de ce que seul le parquet a en l'état pouvoir de s'exprimer sur les affaires dont est saisie la justice, je me ferai le devoir, pour autant que ce sera nécessaire au droit du citoyen à être informé et en conformité avec la législation en vigueur, de vous faire part temps opportun des suites de la procédure. J'invite tout le monde au calme.
Le Collège des avocats de l'homme d'affaires voit dans les propos du procureur une intention manifeste de nuire.
Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Diavon et ses collaborateurs sont l'objet de garde à vue, alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs. La garde à vue de M. Sébastien Diavon et de ses collaborateurs et son maintien restent arbitraires.
Dans la rue, on s'énerve, on crie au complot, on brûle des pneus et on s'inquiète de cette façon insensée avec laquelle les choses évoluent. Il faut dire que c'est un vendredi de toutes les incertitudes qui se lève ce 4 novembre. Soit Sébastien Diavon est remis en liberté au terme du nombre de jours de garde à vue prévu par la loi, ou alors il est déféré. Et dans ce second cas, Cotonou risque de s'embraser au regard des soubresauts observés depuis le 28 octobre dernier. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Le point sur la dernière ligne droite de la présidentielle américaine. La relance de l'enquête sur les emails d'Hillary Clinton et les révélations de propos obscènes par Donald Trump risquent-elles d'influer sur le scrutin du 8 novembre? Les sondages reflètent-ils la réalité du terrain? Quels sont, d'après vous, les enjeux de cette élection? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Cap sur le Cameroun, les travailleurs de la China First Highway Engineering Company sont en grève. L'entreprise est en charge de la construction de l'autoroute reliant la capitale économique Douala à la capitale politique Yaoundé. Et ses employés l'accusent de mauvais traitements et de non-respect de leurs conditions de travail. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Ils sont près de 200 travailleurs de la China First Highway Engineering Company qui ont décidé d'abandonner la construction de cette autoroute en pointant un droit accusateur sur leur employeur qu'ils accusent de mauvaise gestion du personnel, de non-paiement des salaires et de non-respect des termes du contrat. Certains d'entre eux expriment leur mécontentement.
Il ne peut pas se faire qu'on t'embauche comme manœuvre. Tu pars au chantier, tu es ferrailleur, tu es coffreur, tu es maçon, tu es électricien, tu es tout. Alors qu'on te donne un C comme catégorie.
On revendique qu'on nous amende le salaire. Tu viens avoir un papier qui explique que tu es un technicien. Mais le papier, on ne reste pas au papier. On travaille 10 heures, on coupe les heures même. Et si tu manques, on travaille dimanche ici. Ça commence le problème. Les jours fériés ici, c'est obligatoire.
D'autres, par ailleurs, réclament la nomination d'un Camerounais à la direction des ressources humaines.
Nous réclamons un directeur des ressources humaines camerounais, la mise en application du code du travail camerounais et de la législation camerounaise, la mise en œuvre et la mise en application de la convention collective en intégrale.
Il y a les catégories 21, les catégories 30, c'est des choses qui n'existent pas. Les heures sont mal calculées. Les heures supplémentaires ne sont pas respectées.
Malgré les négociations avec les autorités publiques, ces derniers maintiennent leur décision de ne pas retourner au travail tant que leurs réclamations n'auront pas reçu de suite favorable. Un avis que soutient Jean-Marie Zambo Amougou, président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun.
En réalité, les normes internationales du travail ratifiées par le Cameroun ne sont pas respectées. La législation nationale en matière du travail n'est pas respectée. Les problèmes de protection sociale, c'est-à-dire l'affiliation à la CNPS, n'est pas respectée. Les cotisations sociales ne sont pas reversées à la CNPS.
suite à l'inertie des responsables de la China First Highway Engineering Company, ceux-ci n'ont pas pu trouver le sommeil cette nuit, car réveillés par les bruits de tam-tam que tapaient les grévistes. Ces derniers, par la suite, auront pris la fuite du camp où ils se trouvaient. Rappelons que cet incident visant une entreprise chinoise n'est pas le premier du genre. Elle a déjà subi le même traitement sur plusieurs chantiers à l'est du pays. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Présidentielle américaine 2016, le vote par anticipation bat son plein. La candidate démocrate Hillary Clinton est créditée d'une légère avance, d'où les nouveaux efforts déployés par son adversaire républicain Donald Trump dans l'espoir de s'imposer dans cette course à la Maison-Blanche. Le point avec Timothée Donangmaï.
Par courrier et dans les bureaux de vote, les Américains continuent de voter avant la date officielle du 8 novembre. Ils sont plus de 31 millions à avoir déjà exprimé leur suffrage dans les 37 États autorisant le vote par anticipation, ce qui représente environ un quart des suffrages attendus au plan national. C'est ce qui explique l'intense effort déployé par les républicains et les démocrates dans l'espoir de recueillir ces voix. Les résultats ne seront connus qu'à la fermeture des bureaux de vote la semaine prochaine, mais selon des sondages à la sortie des urnes, la démocrate Hillary Clinton maintiendrait une légère avance. L'ancienne secrétaire d'État bénéficie du soutien des électeurs hispaniques dans des États comme le Nevada ou le Colorado. Dans l'État-clé de la Floride, républicains et démocrates sont pratiquement à égalité, avec une baisse du taux de vote par anticipation chez les Africains américains, soutien traditionnel des démocrates. Dans un discours en Caroline du Nord mercredi, le président Obama a exhorté la communauté noire à aller massivement aux urnes, soulignant qu'il y va de son héritage politique.
Pour sa part, Donald Trump affiche une bonne présence dans l'Ohio et l'Iowa, deux des États dont il a besoin pour atteindre le minimum de 270 voix de grands électeurs nécessaires pour arriver à la Maison-Blanche, Tim.
Dans l'Ohio, les comtés à majorité démocrate ont noté une baisse des demandes de vote par anticipation, alors que ceux majoritairement républicains signalent une augmentation de la demande. Dans l'Arizona, avantage aux républicains qui mènent par 5%, mais cette situation est préoccupante pour eux dans la mesure où, à ce stade des élections de 2012, le candidat républicain Mitt Romney était en tête avec une marge de 10%, d'où l'offensive des démocrates dans cet État. Donald Trump semble en bonne position pour garder le contrôle de certains États traditionnellement républicains et que vise Hillary Clinton cette année, notamment la Géorgie. Éternel optimiste, l'homme d'affaires s'est imposé une nouvelle discipline dans ses meetings, suivant scrupuleusement les avis de ses conseillers. Et pour la première fois dans cette campagne électorale, son épouse, Melania Trump, prononcera un discours ce jeudi en Pennsylvanie. Elle tentera de contrer les accusations de la démocrate Hillary Clinton selon lesquelles Donald Trump n'a que mépris pour les femmes. Selon Associated Press, plus de 46 millions d'Américains, soit 40% des électeurs, auront voté avant le scrutin de mardi.
Merci Tim.
Les élections américaines n'ont jamais autant passionné les électeurs américains. Sans précédent aussi, l'engouement du reste du monde. Qui de Donald Trump ou de Hillary Clinton sera le prochain locataire de la Maison-Blanche? Nous le saurons la semaine prochaine et VOA Afrique sera là pour vous accompagner tout au long de ce scrutin historique. Nos correspondants seront en direct depuis New York et Washington pour vous donner les résultats des élections, mais aussi pour faire le point. L'Amérique vote, c'est les 7, 8 et 9 novembre sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde, Morgan Guériec et Eric Manirakiza à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Nous avons atteint la barre des 2 millions. Maintiens la conversation et surtout, visitez notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 heures sur 24.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.